Je vais vous présenter maintenant notre conférencière de ce soir. Donc Sylvie Brunel est écrivain et géographe. Elle est professeure de géographie à l'université Paul Valéry de Montpellier et à l'IEP de Paris. Concernant son parcours, elle est agrégée de géographie, docteur en économie, maître en droit public et diplômée du Centre de formation des journalistes. De 84 à 89, elle a participé à Médecins sans frontières. Depuis 88, elle est enseignante à l'Institut d'études politiques de Paris. Et depuis 89, elle est directrice générale puis conseillère stratégique à Action contre la faim. Ses spécialités, donc Sylvie Brunel travaille depuis 15 ans dans l'humanitaire. Elle a été directrice générale et conseillère stratégique d'une ONG, Action contre la faim, et elle est l'une des premières à avoir analysé l'évolution de l'humanitaire et ses dérives. Des éléments bibliographiques, donc elle a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, et elle a publié une quinzaine d'ouvrages sur l'alimentation, le développement et la coopération. Notamment donc le gaspillage de l'aide publique au seuil en 93, le Sud dans la nouvelle économie mondiale PUF Major 95, ceux qui vont mourir de faim au seuil en 97, la coopération Nord-Sud au PUF que sais-je 97, la faim dans le monde comprendre pour agir PUF 99 et son dernier roman donc sur l'humanitaire qui est sorti il y a 2 mois qui s'appelle Frontières chez De Noël, en 2003. Donc Sylvie Brunel, je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un échange avec le public d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup.
Merci. Merci, bonsoir à tous, bonsoir d'être là. Donc aujourd'hui, le thème de l'Université de tous les savoirs est les ONG dans la mondialisation. En préambule, un constat s'impose et il est évident, c'est l'explosion des ONG et leur rôle croissant sur la scène internationale. Qu'il s'agisse des ONG humanitaires de terrain, soit d'urgence, de développement, les deux, des mouvements de sensibilisation, voire de contestation, des ONG du Nord, des ONG du Sud, des ONG associatives, mais aussi de ce que les anglo-saxons appellent les GONGO, c'est-à-dire les gouvernementales NGO, qui tirent leurs ressources de financement public. Les ONG, aujourd'hui, sont partout. L'humanitaire fait recette et ses héros sont de véritables figures emblématiques qui compte parmi les personnalités préférées des opinions publiques occidentales. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, plus de 30 000 ONG peuvent être dénombrées dans le monde aujourd'hui. Et leur nombre ne cesse de croître, on le constate bien avec le nombre de celles qui sont accréditées auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, et ce nombre lui aussi ne cesse d'augmenter. Donc, premier constat, les organisations non gouvernementales, les ONG, sont devenues, en l'espace de 10 ans, un acteur de tout premier plan dans les relations internationales. On peut dire que l'acte fondateur de leur entrée en scène, évidemment vous pensez sans doute à Rio en 1992, mais le moment où elles s'imposent vraiment sur la scène médiatique, c'est Seattle, en novembre 1999, avec 40 000 manifestants dans les rues de Seattle contre l'Organisation mondiale du commerce. Les ONG perturbent désormais le jeu de la diplomatie traditionnelle dont les États formaient jusque-là les principaux protagonistes. Il y avait 200 000 personnes qui manifestaient dans les rues de Gênes en juillet 2001 pour protester contre le sommet du G8. Et désormais, chaque conférence au sommet, la marche huilée de chaque conférence au sommet est perturbée par les actions, les manifestations des ONG. Le dernier épisode en date est en juin 2003, quand la rencontre du G8 à Évian s'est doublée des manifestations des altermondialistes à Annemasse. Alors que veulent les ONG? Eh bien, elles mobilisent des mouvements citoyens, on pense par exemple à ATTAC, elles lancent des mots d'ordre contre les organismes génétiquement modifiés, par exemple les OGM, ou pour l'annulation de la dette. Leurs revendications, on peut dire qu'elles s'exercent de manière multiforme, mais elles peuvent schématiquement se résumer à l'aspiration à un développement durable. Vous avez eu une conférence au développement durable le 6 juillet avec Laurence Tubiana. Un développement durable pour tous qui concilie la lutte contre les inégalités et la pauvreté d'une part et la préservation de l'environnement d'autre part. Donc leur trait commun à ces ONG, c'est une dénonciation presque unanime d'une part de la mondialisation libérale, d'autre part des systèmes traditionnels d'exercice de la puissance publique qui sont incarnés à la fois par les États, mais aussi par les institutions internationales qui en sont l'émanation, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale. On peut dire que les ONG veulent rénover la gouvernance mondiale. Et à ce titre, le deuxième forum social mondial de Porto Alegre, en février 2002, a mobilisé ainsi 2000 ONG, 50 000 participants, et on peut dire qu'il a éclipsé le sommet officiel, le sommet économique officiel de Davos, qui se tenait cette année-là au même moment à New York, et qui a vraiment fait pâle figure par rapport au foisonnement de Porto Alegre. Pourtant, les conditions de la montée en puissance des ONG conduisent à s'interroger sur ce que je vais appeler les trois paradoxes des ONG dans la mondialisation. Le premier paradoxe, c'est que les ONG qui dénoncent la mondialisation en sont pourtant les principales bénéficiaires. Le deuxième paradoxe, c'est que c'est au moment où les ONG s'imposent comme des acteurs clés sur la scène internationale que l'humanitaire est récupéré et dévoyé. Et le troisième paradoxe, c'est que les ONG se présentent comme les seules incarnations légitimes de la société civile, et pourtant, toutes ne sont pas guidées par le sens de l'intérêt général. On peut même se demander si, dans certains cas, l'humanitaire n'a pas évincé aujourd'hui le développement. Donc ce sont les trois paradoxes que je vais vous développer maintenant. Et donc le premier paradoxe, c'est que les ONG qui dénoncent la mondialisation en sont pourtant les grandes bénéficiaires. Jamais elles n'ont connu une telle audience auprès du grand public, et on peut constater que l'émergence de ces mouvements citoyens est précisément liée à l'avènement de la mondialisation actuelle. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, la montée en puissance des ONG est récente. Quand vous regardez les générations d'ONG, historiquement, vous pouvez à peu près en voir quatre. Une première génération d'ONG est essentiellement anglo-saxonne. Elle est née pendant les deux grandes guerres mondiales dans le contexte d'un secours aux populations meurtries d'Europe. Ce sont des ONG comme CARE, Oxfam, Save the Children qui ont aujourd'hui un très grand volume d'activité, un très grand retentissement. Seconde génération d'ONG, les ONG qui sont apparues dans le contexte de la décolonisation, et on peut dire que les ONG anglo-saxonnes à ce moment-là se sont réorientées comme cette deuxième génération d'ONG vers le tiers-monde, en portant à la fois un discours d'émancipation politique des peuples dominés et en ayant la volonté d'accompagner leur développement économique. Ces ONG-là agissent dans les creux du développement. Une troisième génération d'ONG, enfin, est née avec le mouvement sans-frontiériste dans le contexte de la guerre froide. Née après le conflit du Biafra, Médecins sans frontières en est la première, l'initiatrice, mais elle a été suivie par de nombreuses autres ONG qu'on qualifie de sans-frontiéristes, Action contre la faim, Médecins du monde, Handicap international. Et ces ONG sont intervenues soit aux marges du monde soviétique pour en recueillir les réfugiés dans le contexte de la guerre froide, soit dans les grandes catastrophes naturelles du monde occidental. On peut dire que ces ONG-là ont agi dans les creux de la géopolitique. Mais c'est surtout la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis le début des années 90, qui suscite l'éclosion de multiples associations. Pour deux raisons. La première raison, c'est l'affaiblissement des États. Avec la chute du mur de Berlin, la rente extérieure dont bénéficiaient de nombreux pays du Sud, notamment celle de l'aide publique au développement, qui avait été conçue, je vous le rappelle, comme accompagnement de la décolonisation puis de la guerre froide, eh bien, cette aide publique au développement, elle va peu à peu se tarir dans un monde devenu désormais unipolaire. Cette aide publique au développement, elle va chuter de 30% entre 1992 et 2002. Et comme les pays du Sud subissent aussi la baisse de la rente des matières premières avec la baisse des cours internationaux des produits de base à partir du début des années 80, eh bien survient la crise de la dette. Et quand survient la crise de la dette qui va marquer la décennie 1980-1990, on va voir les institutions financières internationales, FMI et Banque mondiale, surgir dans les pays du Sud et exiger la démocratisation auprès d'États qui sont affaiblis et délégitimés par les privatisations et les libéralisations qui leur sont imposées. Et à ce moment-là, dans ce contexte de crise économique et de libéralisation politique, on va voir apparaître de nombreux mouvements issus de la société civile, dans le Sud comme dans le Nord, qui sont relayés par une presse qui est désormais libre de dénoncer le dysfonctionnement de la société et les abus du pouvoir. Donc affaiblissement des États d'une part, après, dans le contexte de la crise de la dette et de la fin de la guerre froide. Deuxième phénomène facilitant l'essor des ONG, les facilités offertes par ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles techniques d'information et de communication. On peut dire que les fondements de la mondialisation, avec l'avènement de réseaux de communication à distance, et notamment la généralisation d'Internet, sont l'autre facteur de montée en puissance des organisations issues de la société civile. Comment mobiliser des énergies et lancer des mots d'ordre planétaires sans ce formidable outil informatique qui permet de diffuser de l'information en temps réel d'un bout à l'autre de la planète qui est Internet? Aucune des ONG les plus puissantes du monde actuel n'aurait pu connaître un tel développement sans Internet. On peut dire que c'est ce moyen qui a permis aux ONG du Nord et du Sud de confronter leurs analyses et leurs témoignages, de mettre en place des réseaux, de lancer des campagnes planétaires de mobilisation pour l'annulation de la dette, par exemple, ou de dénonciation, par exemple, des dictatures birmanes ou soudaniennes, ou l'alliance des paysans indiens et de la Confédération paysanne contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc on peut dire que grâce à Internet, les ONG ont développé une information alternative mondialisée qui puisse évincer le discours officiel. Et donc, on peut dire que la prolifération du mouvement associatif est un pur produit de la mondialisation. Jamais les mouvements associatifs n'ont pu bénéficier de telles caisses de résonance, de tels moyens médiatiques et de communication pour faire entendre leur voix. Donc, montée en puissance récente et montée en puissance servie par des moyens d'intervention accrus. Les ONG ont été servies donc par l'affaiblissement des États, par la fin de la guerre froide et par l'avènement de réseaux de communication transcontinentaux. Mais elles ont été aussi portées par l'ampleur des financements mis à leur disposition dans le cadre de la mondialisation, qui leur a permis de décupler leurs moyens d'action en l'espace de quelques années. En effet, aujourd'hui, l'aide publique au développement, dont je vous ai dit qu'elle était de plus en plus limitée, malgré le rebond qu'on peut observer depuis cette année, eh bien, cette aide publique au développement est de plus en plus une aide humanitarisée. Et les montants débloqués en situation d'urgence médiatisée atteignent des sommes colossales qui équivalent, pour les zones concernées par cette humanitarisation, à plusieurs années de la coopération publique traditionnelle. La coopération publique traditionnelle est de plus en plus difficile à mobiliser pour les États du Sud qui sont non émergents ou qui ne présentent ni intérêts stratégiques, ni ressources énergétiques ou minières essentielles. Et donc la fatigue des donateurs, ce qu'on appelle la fatigue des donateurs, fatigue qui est due à la fois au manque de résultats des programmes de coopération traditionnelle et à la corruption qu'ils alimentent dans les pays receveurs, et bien cette fatigue des donateurs, elle est compensée en partie par l'exposition successive de ce qu'on va appeler les grandes crises humanitaires. Et beaucoup d'ONG n'ont eu qu'à surfer sur la vague de ces crises dites humanitaires, qui sont bien plus des crises médiatiques et géopolitiques, pour collecter des fonds prodiguement distribués. Kurdistan 1991, Bosnie 1992, Zaïre, Goma 1994, pas le génocide au Rwanda, mais Goma, l'afflux des réfugiés dans les pays limitrophes, l'Amérique centrale, Mitch 1998, le Kosovo 1999, l'Afghanistan 2001 ou l'Irak en 2003. Certaines régions ont ainsi successivement constitué des zones de convergence, de coalitions militaro-médiatico-humanitaires où il fallait, pour une agence d'aide, être institutionnellement présente sous peine de perdre des budgets publics considérables. Mais l'humanitarisation de l'aide a des limites. Et ces limites, c'est d'abord ce qu'on pourrait appeler la victimisation du Sud. C'est-à-dire que ces populations du Sud, avec cette humanitarisation de l'aide, sont perçues de plus en plus comme des amas de corps souffrants qu'il s'agit de soigner, d'abreuver, d'abriter, grâce à des techniques qui sont certes de plus en plus professionnelles et efficaces, mais qui sont aussi de plus en plus déshumanisées. Le bénéficiaire, ce que les ONG appellent leur bénéficiaire, devient une sorte de victime anonyme, sans passé, sans culture, sans savoir social, et ce bénéficiaire, il fait de plus en plus écran aux citoyens, à ses aspirations, à la reconnaissance de ses droits, et notamment de ses droits politiques. Et la pitié devient dangereuse, car elle rabaisse l'objet de sa compassion. Et cet humanitaire, malheureusement, il faut le dire, souvent intéressé, est parfois violemment rejeté par les porte-paroles intellectuelles et politiques des sociétés qui sont touchées par ces coalitions militaro-humanitaires. On sait très bien qu'en Bosnie, par exemple, les casques bleus se sont fait complices, malgré eux, de l'épuration ethnique commise dans les enclaves de Zepa et surtout de Srebrenica en 1995, car leur mandat ne leur permettait pas de s'interposer. L'aide humanitaire a été mieux protégée que les victimes de la purification ethnique. Et tandis que nourriture, tentes et médicaments circulaient dans des convois blindés sous l'œil des journalistes du monde entier, se déroulait la tragédie de la recomposition de la Bosnie par zone ethnique. Et on peut dire que les humanitaires, d'une certaine façon, sont entrés dans ce jeu, puisqu'ils ont accepté d'acquitter leur dîme pour accéder aux victimes, tant pour les Serbes, tant pour les Croates, tant pour les musulmans. Et le journaliste bosniaque Zlatko Dizarevic a dénoncé en 1998 le cirque grotesque de la communauté internationale, je le cite, « venu planter sa tente à proximité de notre champ de bataille, le temps qu'a duré le spectacle et les nombreuses activités menées sous la bannière de l'aide humanitaire sans en être vraiment. » Et il écrit « Le problème principal réside dans le gigantisme incontrôlable des mécanismes qui permettent d'aider les zones en conflit. Un nombre incalculable d'ONG sont actuellement actives à Sarajevo ou à Banja Luka. Pourtant, personne ne semble savoir d'où elles proviennent, de qui elles dépendent, qui sont leurs employés et quels sont leurs objectifs. Toutes prétendent être là pour contribuer à la reconstruction de la Bosnie. Ces ONG, souvent douteuses, emploient pour des sommes dérisoires de jeunes locaux, même qualifiés, et elles mènent la chasse aux projets susceptibles d'attirer des fonds étrangers. De tels propos pourraient être appliqués à bien d'autres endroits, le Cambodge, le Kosovo, l'Afghanistan ou désormais l'Irak, sans en changer une ligne. Donc cela m'amène à mon deuxième paradoxe, c'est que c'est au moment où les ONG s'imposent comme des acteurs clés sur la scène internationale que l'humanitaire se dénature et se pervertit. D'abord parce que l'humanitaire est récupéré par les pays du Nord. L'humanitaire est récupéré par les pays du Nord, on voit aujourd'hui, sous la bannière humanitaire, naître les organismes les plus divers, parce que le succès de l'argument humanitaire permet de masquer beaucoup d'autres mobiles, souvent bien moins humanistes. On voit aussi les grandes entreprises créer des fondations humanitaires, bien sûr, dont les activités caritatives ne sont jamais très loin des puits de pétrole. Elf en Angola, Shell au Nigeria. Elles financent des programmes d'ONG là où les régimes qu'elles soutiennent, indirectement par leurs activités, parfois directement, ne brillent pas par le respect des droits de l'homme, total ou local, en Birmanie. Voire, elles envoient, sans faux semblant, des mercenaires qui sont chargés de sécuriser les territoires sur lesquels elles ont obtenu des concessions et des permis d'extraction, comme on l'observe aujourd'hui en Sierra Leone, en Exaïre, en Angola ou au Soudan. Et ces mercenaires se réclament sans vergogne d'une mission prétendument humanitaire pour justifier leur présence. Deuxième type de mouvement à employer la bannière humanitaire, les églises. Après les entreprises, les églises. Les ONG croisent sur les terrains sur lesquels ils interviennent de nombreux missionnaires qui trouvent dans les zones déchirées par la guerre civile un terrain réceptif à leur discours messianique, surtout quand ils s'accompagnent de secours matériels. Au nord du Soudan, par exemple, les organisations islamiques conditionnent leur aide à la conversion à l'islam, tandis que les organisations chrétiennes, elles, ont trouvé au sud du Soudan un formidable champ d'évangélisation auprès de ces populations civiles qui sont ravagées par la guerre depuis plus de 20 ans. Et on voit ces mêmes récupérations religieuses de l'humanitaire en Bosnie, en Algérie, on l'a vu récemment après le séisme, ou en Irak. Enfin, troisième E après les entreprises et les églises, les États. Les États, on peut dire qu'ils préemptent désormais le champ de l'action humanitaire, comme on l'a vu depuis 1999 avec les exemples de Timor et du Kosovo, celui de l'Afghanistan en 2001, celui de l'Irak en 2003. Et on peut dire que la confusion des genres est alors poussée à son comble. Les armées font de l'humanitaire, les humanitaires jouent les diplomates pour faciliter leur accès aux victimes, quand ils ne financent pas ces humanitaires des protections armées pour se protéger dans les régions les plus troublées, comme on l'a vu en Somalie, ou quand ils n'appellent pas carrément à une intervention des militaires pour faire cesser les exactions les plus choquantes, comme on l'a vu en Kosovo en 1999. Et on peut se demander comment, dans ces conditions, continuer à défendre la neutralité de l'ambulancier en blouse blanche, tel qu'Henri Dunant avait voulu l'ériger quand il avait fondé à la fin du XIXe siècle le Comité international de la Croix-Rouge. On peut se demander comment assurer cette neutralité quand l'Occident mène désormais de véritables guerres humanitaires au Kosovo, à Timor, en Irak ou en Afghanistan, en créant des protectorats humanitaires au devenir incertain. Et cette récupération de l'humanitaire au Nord, elle est sous-tendue par le poids croissant des financements publics. On peut dire que la création d'un humanitaire d'État est le parachèvement de cette récupération de l'humanitaire au Nord, soit que les États créent leur propre humanitaire officiel, soit qu'ils allouent des financements considérables à des ONG qui sont des ONG sous tutelle. Et on peut dire que la récupération de l'humanitaire par la puissance publique a provoqué la montée en puissance de ce qu'on appelle les ONGG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales gouvernementales, qui sont de véritables ONG cheval de Troie qui acceptent d'intervenir dans les zones, dans des zones où les besoins humanitaires ne sont pas forcément flagrants, pas en tout cas plus flagrants qu'ailleurs, pour bénéficier des budgets publics qui sont alloués à l'intervention dans ces zones. Et certaines ONG sont ainsi devenues le bras désarmé des États, et on peut dire qu'elles sont de simples opérateurs de la puissance publique qui ne fonctionnent plus que suivant une logique de guichet. Elles servent... Alors ça ne veut pas dire que leurs volontaires ne sont pas parfois animés des meilleures intentions du monde. Les volontaires de l'humanitaire ne sont pas en cause. Mais les structures, eh bien, envoient des jeunes qui servent d'émissaires dans les zones les plus risquées. Et cela permet de tâter le terrain, de se positionner en vue d'une installation ultérieure des diplomates et des marchands. On peut aussi mentionner, cas extrême, les pseudo-ONG qui sont envoyés en éclaireur pour se livrer à des activités d'espionnage ou prendre la mesure des contrats de reconstruction. Et on l'a vu dans les affrontements qui ont suivi la guerre en Irak entre les différents pays qui tous voulaient se positionner pour la reconstruction juteuse de l'Irak et envoyer leurs ONG. Et ces ONG-là, eh bien, elles rivalisent d'ingéniosité ou de complaisance pour pouvoir être choisies, pour emporter le morceau. C'est-à-dire, le morceau, la plus grosse part des budgets institutionnels qui sont alloués à ces grandes opérations militaro-humanitaires. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les ONG entrer dans des compétitions féroces pour planter leur drapeau sur place et financer ce qu'elles n'hésitent pas à qualifier des missions rentables, voire des missions vache à lait, parce qu'elles permettent de financer des frais de siège de plus en plus importants. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si la protection des populations est mieux assurée pour autant. Et rien n'est moins sûr, parce que ce qu'on constate, c'est que les cadres stratégiques d'intervention qui sont mis en place par la puissance publique dans les grandes zones militaro-humanitaires pour coordonner le dispositif humanitaire, eh bien, elles ne sont déployées que pour les régions utiles, que pour les régions qui présentent soit un intérêt géopolitique ou économique, soit les régions qui présentent un risque de contagion régionale tel qu'il faut très vite y mettre en place ce qu'on appelait pendant la guerre froide un containment, vous savez, on disait ça pour le communiste, un containment de façon à ce que la crise humanitaire ne dégénère pas sur les régions voisines. Et on peut dire que certaines ONG sont ainsi devenues insidieusement de véritables mercenaires de l'aide. Et c'est là qu'on se heurte aux limites de l'ingérence. Vous le savez, le 8 décembre 1988, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à l'unanimité la résolution 43-131 sur l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre. On a appelé cela, sans doute un peu vite, le devoir d'ingérence, et on avait l'impression que ce devoir d'ingérence pouvait rompre avec deux principes sacro-saints du droit international public, la souveraineté des États d'une part, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures d'autre part. En fait, après plus de 10 ans de recul, après 15 ans de recul, on voit que l'ingérence a montré ses limites et que sa mise en œuvre est toujours conditionnée par la présence d'un intérêt à agir, comme on le dit dans le droit, d'un intérêt à agir des grandes puissances et surtout de la première d'entre elles, les États-Unis. Plus grave encore, les États membres du Conseil de sécurité des Nations unies qui sont en principe garants de la sécurité collective, couvrent de graves atteintes aux droits de l'homme dans leurs chasses gardées respectives, la Tchétchénie pour la Russie, le Tibet et le Xinjiang pour la Chine ou le Congo-Brazzaville pour la France. Et en ce sens, on peut penser que le prix Nobel qui a été décerné à Médecins sans frontières en 1999 est arrivé trop tôt ou trop tard, dans la mesure où cette année 99, c'est l'année qui marque l'ingérence à géométrie variable la plus achevée avec les guerres humanitaires que sont le Kosovo d'une part, Timor d'autre part. Donc, premier constat, la récupération de l'humanitaire au nord. Deuxième constat, la récupération de l'humanitaire au sud. Expédient commode pour le nord, l'action humanitaire est en même temps devenue une nouvelle rente pour des gouvernements du sud comme pour certaines guérillas. Il ne faut pas oublier que depuis la fin de la guerre froide, depuis la baisse du prix des matières premières, depuis la crise de la dette, il faut, aux États du Sud, aux mouvements en guerre aussi, trouver absolument de nouvelles rentes. Et ces nouvelles rentes, eh bien, c'est notamment la récupération de l'action humanitaire qui procède du même mouvement de captation des richesses que l'explosion des narcotrafics, que le pillage des populations civiles ou l'attitude prédatrice vis-à-vis des ressources minières ou agricoles des territoires qui sont contrôlés. Et un certain nombre de régimes, comme de mouvements armés, ont parfaitement compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de l'idéal humanitaire. Et pour les sociétés du Sud comme de l'Est, la situation est souvent difficile à accepter parce que, alors que l'aide publique au développement n'a jamais été aussi faible et les mécanismes de sécurité collective aussi défaillants pour les pays pauvres, eh bien la coopération au développement est évacuée au nom de l'émotion qui est devenue le meilleur moyen de satisfaire les opinions publiques en donnant l'illusion de l'action. Et c'est ainsi qu'on voit notamment dans la question, dans le domaine des famines, la multiplication de ce que j'appelle dans mes différents livres les famines exposées. Je m'explique. Il a toujours existé dans l'histoire de l'humanité des famines inaccessibles et cachées qui avaient pour but de soumettre ou d'éliminer des minorités indésirables. Le Nouba du Soudan, les Rohingyas birmans, les populations Hutus réfugiées dans les forêts du Kivu à la fin de 1996. Ces famines, elles ont malheureusement toujours existé et elles existent toujours. Mais à ces famines idéologiques destinées à éliminer des populations gênantes sont venues se greffer de nouvelles famines qui sont créées uniquement comme instrument de propagande. Ce sont des famines particulièrement cyniques puisqu'elles se donnent pour but d'affamer non pas forcément des populations ennemies, mais souvent les propres populations des mouvements armés, par exemple au sud du Soudan, dans les régions tenues par le SPLA, au Libéria, de 1991 à 1997, et sans doute bientôt avec ce qui est en train de se passer, en Sierra Leone. On peut dire que dans ces régions, les civils ont été méthodiquement privés de tout moyen de subsistance, dans des zones qui n'auraient jamais dû connaître la faim, c'est pour ça qu'on parle de famine verte, afin que leur détresse puisse faire l'objet d'une fructueuse exploitation médiatique, politique et humanitaire. Et exposer les souffrances de ces victimes particulièrement touchantes, toujours des enfants et des femmes, jamais des hommes, eh bien, cela permet de mobiliser la compassion internationale, donc d'attirer l'aide, mais aussi, dans le même mouvement, de se doter d'une visibilité médiatique qui est fort utile pour négocier des annulations d'aide, négocier des revendications territoriales, négocier des passages à la démocratie. Et on peut dire qu'il existe aujourd'hui une véritable aubaine pour les régimes criminels qui ont compris que, loin d'être contestés, ils reçoivent en plus une assistance humanitaire. Donc la conclusion de cette deuxième partie, c'est que l'espace humanitaire, c'est cet espace humanitaire qui devrait être neutre et indépendant, il s'est considérablement rétréci. Cet espace humanitaire, il est à la fois, on l'a vu, grignoté de l'extérieur par les nouveaux acteurs qui font de l'humanitaire à la place des ONG, les militaires, les entreprises, les 3E, État, entreprise, Église. Mais il est aussi laminé de l'intérieur par le rétrécissement de la marge de manœuvre des ONG. Et on peut dire que l'époque actuelle sonne le glas des ONG sentinelles, c'est-à-dire les ONG qui croyaient, par leur seule présence, par cette loi du tapage, c'est la formule de Bernard Kouchner, mettre fin aux exactions, à l'oppression et à la violence par leur capacité de dénonciation, par leur présence sur place. Parfois même, la présence des ONG exacerbe les violences de terrain, parce qu'elle permet aux factions en présence de se livrer à des démonstrations de leur poids militaire et de leur capacité de nuisance, ce qui leur confère une légitimité accrue face à leurs interlocuteurs. On l'a vu en Somalie, où en 1992-1993, c'est aux seigneurs de la guerre que les forces d'intervention américaines de l'opération Restore Hope se sont adressées pour les réunir autour d'une table afin de trouver un compromis acceptable pour rétablir la paix. De même, en 1995, à Srebrenica, les casques bleus néerlandais négocièrent avec le général Madlik, qui, à la tête des forces serbes de Bosnie, avait pourtant donné l'assaut contre la zone de sécurité décrétée par l'ONU et déporté par quart entier la population musulmane de l'enclave, suscitant entre 7 000 et 8 000 morts, alors même que les ONG proliféraient en Bosnie. Pourtant, même si l'espace humanitaire se rétrécit, les ONG, elles, ne cessent de croître. Elles croissent non seulement dans les grandes manifestations, mais dans les sièges, et on peut observer aujourd'hui une véritable explosion des ONG depuis environ une décennie. C'est mon troisième point, mon troisième paradoxe, des ONG de plus en plus institutionnelles. Premièrement, ce qui est marquant dans ces ONG de plus en plus institutionnelles, c'est la montée des combats globaux. Comme les ONG sont conscientes des difficultés à agir sur le terrain, beaucoup d'entre elles ont déplacé leur action sur le terrain des droits de l'homme. Elles consignent les violences, les crimes de guerre, de manière à permettre l'exercice ultérieur de la justice. C'est-à-dire que beaucoup d'ONG, confrontés à la difficulté, à ce rétrécissement de leur périmètre de sécurité, de leur périmètre d'action humanitaire neutre et indépendant, se sont lancés dans ce qu'elles appellent l'advocacy. L'advocacy, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire le témoignage engagé. On fait passer des informations sur des régimes qui sont responsables d'oppression et de violence pour espérer faire évoluer la situation. L'advocacy est à la fois très bien, mais elle présente un grave inconvénient, celui de confisquer un peu plus l'accès aux victimes. Quand on dénonce les situations où la protection des populations ne peut pas être assurée, eh bien forcément, on expose un peu plus les volontaires des ONG soit à des actes de représailles, soit tout simplement à l'interdiction pure et simple d'accéder à certains territoires, précisément ceux où les stratégies criminelles sont les plus flagrantes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, des zones entières deviennent peu à peu terra incognita pour les ONG. Elles ne peuvent plus y intervenir. Elles voudraient dénoncer, mais elles n'ont plus accès aux victimes, donc elles perdent leur légitimité de terrain. Alors que leur force et leur apport au cours des deux dernières décennies, ça a été précisément leur capacité à se rendre là où on souffrait en silence du fait de l'oppression, du fait des totalitarismes, et à faire parler ce que Bernard Kouchner appelle la loi du tapage. Donc, face à ces conditions d'intervention de plus en plus difficiles, les ONG se sont déplacées sur l'advocacy, et elles se sont aussi déplacées sur un autre terrain plus global, un nouveau terrain d'action, qui est celui de la mobilisation citoyenne pour un monde plus juste. Il y a aujourd'hui un grand nombre d'ONG qui n'ont pas d'action de terrain, qui ne sont même pas présentes sur le terrain, mais qui sont nées au cours de la dernière décennie, et notamment au cours des 5 dernières années, pour utiliser les outils de la mondialisation dans le but de fédérer les bonnes volontés dans des combats pour la défense des droits de l'homme, une meilleure répartition des richesses, une plus grande justice internationale. Et ces ONG ont une très grande force de contestation, elles ont une très grande audience, et on a vu comme ça émerger des mouvements très puissants, nord-sud, d'annulation de la dette, je pense à Jubilé Sud, mouvements luttant, dénonçant la spéculation financière internationale, attaque, mouvement de défense de l'environnement, Greenpeace qui végétait depuis de nombreuses années a connu une formidable explosion au cours des dernières années, voire des mouvements de contestation globale pure et simple. Et on peut dire que ces ONG de mobilisation citoyenne ont à leur crédit de véritables réalisations qui sont indéniables. On peut imputer à cette action des ONG, à la fois ONG de terrain, réorientées sur le terrain des droits de l'homme, et ONG globales, de mobilisation globale, des réalisations comme l'avènement, la création de la Cour pénale internationale, qui, malgré ses limites, est enfin un dispositif général permettant de sanctionner les dictateurs, avec certes tout un tas de problèmes de mise en œuvre, parce qu'évidemment, un tel dispositif ne peut que rencontrer des résistances, notamment des États-Unis, mais pas seulement. On peut leur imputer aussi à ces mouvements globaux la mise en échec de certains accords, qui avaient été élaborés jusque-là par ce qu'on appelle les technocrates internationaux, dans la plus complète absence de transparence, par exemple l'accord multilatéral sur les investissements, la résistance à la diffusion des organismes génétiquement modifiés. On peut leur attribuer aussi la progression du droit positif avec l'adoption du traité contre les mines antipersonnelles, qui est lié à un mouvement très puissant d'une coalition d'ONG, dont une ONG française, Handicap International, qui a fait partie de ceux qui ont reçu le prix Nobel de la paix en 1997. Donc on peut dire que le succès de cette formule, il est indéniable. De Seattle à Gênes ou à Évian, les forces de ce qu'on appelle désormais l'altermondialisation deviennent chaque fois plus importantes. Et la puissance de ces nouvelles structures est à la mesure de la force de leur message, car elles canalisent tous les déçus du militantisme traditionnel au service d'un engagement politique. Elles recrutent tous ceux auxquels les inégalités du monde, la richesse autosatisfaite du monde développé donnent mauvaise conscience, mais qui ne trouvent pas dans les partis politiques traditionnels des voix à la mesure de leur volonté de changement. Et donc ces ONG, elles présentent une efficacité certaine comme contrepoids de la gouvernance traditionnelle. Et en même temps, on peut se demander si leur discours ne porte pas en lui-même un danger, celui de délégitimer les seuls acteurs légitimes du développement que sont les États au profit de simples groupes de pression. Et la question qu'on peut se poser, c'est la question de la légitimité des ONG. Aux États, aux entreprises, aux agences institutionnelles de l'ONU, ces organisations dérivées comme le FMI, la Banque mondiale, les ONG prétendent substituer une légitimité autoproclamée, la leur. Elles seules incarneraient la société civile, les autres acteurs ne pouvant être que des imposteurs et souvent, à les entendre, des imposteurs malfaisants. Et leurs pratiques de dénonciation tous azimuts font mouche. Elles leur valent un courant de sympathie dans l'opinion publique qui contribue au discrédit de l'action politique classique. Et en même temps, ces prises de position, cette auto-légitimation, eh bien, elles ne sont pas exemptes d'ambiguïté. On peut dire que dans ces mouvements, tous azimuts, beaucoup d'ONG agissent en même temps dans un flou juridique qui autorise la défense masquée de nombreux corporatismes. On a pu le constater à Durban, en 2001, où la Conférence mondiale contre le racisme a donné lieu à des actions d'ONG douteuses pour des combats douteux. Et ce qui est marquant quand même, c'est que entre les ONG de contestation et les partis politiques traditionnels, il y a une mésentente qui est souvent à la fois profonde et réciproque, sauf en période préélectorale. Et que les mots d'ordre des ONG, pourquoi les partis politiques sont si réticents à l'égard des ONG et pourquoi l'inverse ? Parce que les mots d'ordre des ONG prennent rarement en compte les contraintes auxquelles sont confrontés les représentants de la puissance publique. On peut dire que la complexité du réel s'accommode mal des solutions toutes faites qui sont prônées par ceux qui ne sont pas chargés de les mettre en application. Les politiques reprochent aux associatifs leur méconnaissance profonde des pesanteurs auxquelles se heurtent ceux qui veulent faire changer les choses. En portant forcément, chaque fois que vous voulez faire changer les choses, vous portez forcément atteinte à des intérêts acquis, à des rentes de situation. Et la sanction électorale ne menace nullement les associatifs qui peuvent, en toute impunité, exiger, par exemple, l'annulation de la dette, en ne l'imputant souvent qu'à des prêteurs du Nord forcément inconséquents et intéressés. Exiger aussi l'ouverture des marchés du Nord aux produits en provenance du Sud, ce qui est tout à fait légitime, et je suis une des premières à le dire, mais en même temps, sans avoir à gérer la reconversion des milliers de sinistrés de l'industrie textile ou sidérurgique, ou encore se battre pour instaurer une taxe sur les transactions internationales, dont le père, le fameux James Tobin, n'en finit pas de se démarquer des altermondialistes en expliquant qu'il voulait juste, pour sa part, freiner la spéculation financière. Ainsi, si les causes défendues par les ONG Nouvelle Génération sont justes, indéniablement justes, elles sont aussi souvent inapplicables, voire irresponsables. Et leur simplicité, qui leur vaut un tel capital de sympathie, qui leur permet de rallier tant d'indécis ou de mécontents, enfin une solution claire que tout le monde comprend aux problèmes de ce monde, eh bien, c'est précisément ce qui les rend souvent concrètement inapplicables. Car cette simplicité, elle a la lisibilité du slogan, sans la complexité du programme destiné à être mis concrètement en œuvre. Et pourquoi cette dérive vers des slogans? Eh bien, parce que les ONG sont devenues, d'abord et avant tout, de formidables entreprises de communication. La rentabilité de leur positionnement est immédiate. Elle se mesure en nombre d'adhérents, donc de cotisations, en visibilité médiatique pour leurs dirigeants, en audience dans les meetings. Se nourrissant d'une culture d'opposition, les ONG ont fait des États et des entreprises leurs principaux ennemis, c'est-à-dire que ceux qui produisent de la norme et ceux qui produisent des richesses sont également dénoncés comme nuisibles. Mais pourtant, c'est coupable à abattre. C'est coupable à abattre pour ces nouveaux justiciers qui n'ont de compte finalement à rendre qu'à eux-mêmes, qu'à leurs donateurs, qu'à leurs administrateurs. Eh bien, ces nouveaux coupables à abattre, ces États et ces entreprises, ce sont ceux qui précisément leur ont permis de croître et de se développer. D'abord pour les États, en bénéficiant de la sécurité d'État de droit, parce que dans les territoires livrés aux mafias et à la loi du plus fort, eh bien, les ONG ne peuvent pas intervenir, elles ont de plus en plus de mal à être présentes dans ces territoires. Et donc on peut dire que les ONG participent, sans même s'en rendre compte, au grand mouvement de libéralisation mondiale, où ceux qui produisent de la norme doivent voir leur champ de compétences le plus restreint possible, alors même qu'elles bénéficient de cette production de normes. De même, les ONG ne cessent de vilipender les entreprises, alors que si vous regardez les choses de façon concrète, eh bien, elles s'alimentent pour beaucoup d'entre elles des fonds que soit les entreprises leur allouent directement, les fonds de mécénat, les fonds de sponsoring, soit qu'ils les leur allouent indirectement par les dons des donateurs qui sont pour la plupart soit des salariés, du public ou du privé, soit des retraités. Et donc, elles vivent de cela même qu'elles vilipendent. Et on peut se demander si cette contradiction fondamentale n'est pas liée à la nécessité organique dans laquelle se trouvent désormais confrontées ces institutions, croître et se développer sans cesse, sous peine de perdre leur audience et de mourir. Quand vous regardez aujourd'hui le financement, le fonctionnement des grandes institutions, des grandes ONG, vous voyez qu'elles doivent sans arrêt chercher de nouveaux financements pour continuer d'exister. Et elles se dotent à cet effet de professionnels de la communication qui sont issus de l'entreprise marchande, auxquels d'ailleurs les ONG finissent de plus en plus par ressembler, par leur budget d'intervention, par leur méthode de management, et elles assignent à ces professionnels de la communication la tâche de répondre à la croissance de leurs besoins de financement. Et en même temps, pour elles, la situation est de plus en plus difficile pour ces ONG, parce qu'on est dans un monde mondialisé où la prolifération du nombre de ces ONG fait qu'elles sont en concurrence les unes entre les autres, et que sans positionnement clair sur la scène de plus en plus fournie des acteurs transnationaux, sans message fort à adresser à tous ceux qui sont susceptibles de les financer, eh bien, elles ne peuvent pas avoir accès aux ressources des donateurs et des médias, donc elles ne peuvent pas survivre. Et les ONG sont désormais en concurrence les unes contre les autres, comme les entreprises qu'elles dénoncent, et on peut se demander parfois si les méthodes qu'elles emploient, le marketing, et notamment le marketing téléphonique, le fait qu'on soit inondé de mailing dès qu'on a fait un don à une ONG, quelle qu'elle soit, eh bien, ne les assimile pas à ce monde marchand qu'elles honnissent. Donc la question est de savoir si ces préoccupations tout à fait légitimes, certes, d'assurer la survie des grosses ONG, ne les éloignent pas peu à peu de la véritable raison de leur existence, et il faut revenir à l'essentiel, la véritable raison de l'existence des ONG initiales, c'est le geste altruiste d'une part, le développement et l'autonomie de ceux qu'elles appellent leurs bénéficiaires d'autre part, pour la mise en œuvre d'un monde plus juste. Et donc, il y a aujourd'hui trois dérives inquiétantes dans le fonctionnement des ONG. D'abord que ce fonctionnement est de plus en plus auto-centré. On peut se demander pour certaines ONG si le but réel, leur motivation profonde, leur motivation profonde, c'est vraiment de voir progresser la justice ou l'équité, ou si c'est de poursuivre leur pérennisation en tant qu'institution dont il s'agit de renforcer les comptes et d'assurer la croissance. Et il est marquant de constater que toutes les grandes ONG suivent à peu près la même évolution que les agences gouvernementales et internationales qu'elles dénoncent, c'est-à-dire la tendance au grossissement et à la bureaucratisation, la démultiplication des circuits de décision, des niveaux de rémunération en hausse constante, justifiés certes par la nécessité de se professionnaliser, mais qui sont souvent comparables, voire supérieurs, à ceux des salariés du secteur non caritatif pour des niveaux de qualification égales. Donc les ONG sont devenues de fait des entreprises, mais elles défendent avec la plus grande détermination le maintien de leur statut associatif qui leur permet de bénéficier de niches fiscales, par exemple le fait de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices, et elles exercent à ce titre un intense travail de lobbying. Par exemple, vous avez vu que récemment, le Parlement a voté l'augmentation de la déductibilité fiscale des dons. Et il est donc curieux de constater que tout en dénonçant l'État, les ONG vivent en même temps à ses crochets, d'une part par les subventions dont elles bénéficient, d'autre part, parce que les dons qui leur sont faits étant en partie déductibles, eh bien, ils diminuent le montant de l'impôt payé à l'État, donc le montant des fonds alloués, entre autres, mais alloués notamment aux services publics. Donc ça, c'est la première dérive. La deuxième dérive, c'est l'apparition d'une économie de l'offre réservée au domaine humanitaire. On l'a vu tout à l'heure, la convergence des efforts financiers, autant publics que privés, sur des régions très limitées du monde pour des périodes courtes, a sonné le glas de la coopération traditionnelle qui était à base de programmes de développement de long terme fondés sur un renforcement des capacités locales. Et dans les zones les moins médiatisées, les ONG ont beaucoup de mal aujourd'hui à faire financer leurs programmes de terrain par les bailleurs de fonds institutionnels comme par le grand public, et elles sont obligées de limiter leurs actions dans les pays qu'on appelle les pays oubliés. Et d'ailleurs, il y a à ce sujet un rapport de la Croix-Rouge qui vient de sortir. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les pauvres qui ne sont pas en situation de catastrophe humanitaire, qui devraient être les principales cibles de la solidarité internationale, sont de plus en plus marginalisés. Et c'est très marquant quand on voit les grandes conférences au sommet, les grandes conférences onusiennes qui ont jalonné la dernière décennie depuis Rio en 1992 sur le développement durable. Ensuite, il y a eu les conférences de Pékin, du Caire, de Rome sur les femmes, sur la lutte contre la faim, sur l'éducation de base. Eh bien, toutes ces grandes conférences au cours desquelles on a vu les chefs d'État du monde entier prendre un certain nombre d'engagements solennels, elles n'ont pas ou très peu été suivies d'effet. Et les 1,2 milliard de personnes qui souffrent de grande pauvreté à travers le monde, ce chiffre englobant tous ceux qui ne bénéficient pas d'un dollar par jour pour vivre, ce sont les données généralement adoptées par les organisations internationales, eh bien ces 1,2 milliard de personnes, elles ont vu l'aide dont elles auraient pu bénéficier diminuer parce qu'elle s'est concentrée au profit des 300 millions de personnes, qui est le nombre, selon le PNUD, des bénéficiaires des programmes des ONG. Donc est-ce qu'on peut dire que l'humanitaire est en train de devenir l'humanitaire pour solde de tout compte ? Ce qu'on constate, c'est que les États du Sud notamment, considèrent de plus en plus les ONG comme des sous-traitants à bon compte qui permettent notamment aux gouvernements des pays pauvres de se décharger d'un certain nombre de leurs missions sociales pour affecter leur budget aux armées, aux fonctionnaires, voire à des comptes en Suisse, et qu'elles assignent aux ONG une mission de développement régional et de lutte contre la pauvreté dont ces États se désintéressent eux-mêmes. Et cette attitude des États du Sud, elle n'est pas réservée aux États du Sud. Dans son nouveau credo de lutte contre la pauvreté, qui est tellement consensuel en apparence, la Banque mondiale instrumentalise elle aussi les ONG en disant que puisque l'application du dogme libéral des plans d'ajustement structurel a laminé l'État-providence, a laminé les services publics et a provoqué une résurgence, un grand nombre de pauvretés, eh bien les ONG sont appelées à la rescousse pour que leur action puisse amortir le coût social et politique des réformes libérales concernant les plus pauvres. Donc on l'aura compris, l'engagement des ONG dans la mondialisation n'est pas exempt d'ambiguïté, et il devient de plus en plus urgent d'instaurer des mécanismes de contrôle. Et ces mécanismes de contrôle devraient être fondés sur deux exigences clés. D'une part, la transparence. Transparence des sources de financement, transparence de la répartition et de l'affectation des fonds, mais aussi transparence des critères d'intervention. Say what you pay, disent les ONG aux entreprises qui travaillent dans les pays du Sud. Eh bien, on pourrait dire aux ONG aussi, say what you pay. Première nécessité, la transparence. Deuxième nécessité, l'évaluation. Il y a aujourd'hui un besoin considérable d'évaluer l'impact réel des programmes menés, à la fois sur le moment et avec du recul, de façon à savoir si les programmes des ONG permettent ou non l'amélioration des conditions de vie de ceux qu'elles appellent leurs bénéficiaires. Parce que dans ce monde proliférant qu'est la nouvelle galaxie des ONG, le meilleur côtoie le pire sans véritable garde-fou, il est urgent aujourd'hui d'instaurer de nouveaux mécanismes de contrôle. C'est à ces conditions et à elles seules que les ONG pourront pleinement incarner la solidarité active et l'altruisme dont des millions de personnes les créditent et qui justifient la croissance dont elles bénéficient. En s'interrogeant sur leurs méthodes et sur leurs finalités réelles, en triant le bon grain de livret au lieu d'appliquer une sorte de loi du silence, une véritable omerta qui consiste à taire les dérives de peur de décourager le donateur. Parce que leur rôle social est indéniable, nous avons tous, nous s'appliquant aux citoyens, aux États, comme aux ONG elles-mêmes, nous avons tous à gagner à des ONG transparentes et efficaces. Je vous remercie. Merci.
Bonsoir. Donc, en vous écoutant ce soir, je me suis dit, je vais peut-être plus donner de l'argent aux ONG parce que je me dis où ça part. Mais d'un autre côté, vous parlez de contrôle. Et je me suis dit, mais qui pourrait contrôler à part les gouvernements ? Est-ce que vous pensez à l'ONU ou à d'autres organismes ?
Oui, c'est une question délicate parce que justement, les ONG sont contre un contrôle étatique. Et elles ont des procédures de contrôle interne. Par exemple, par le comité de la charte de déontologie concernant les dons ou des procédés de contrôle par des commissaires aux comptes, etc. Mais l'expérience montre que ce n'est que lorsque l'État, par l'Inspection générale des affaires publiques, des affaires sociales, l'IGAS, par la Cour des comptes, par le service de prévention de la corruption, se mêle de la situation d'une ONG, bon, certaines passent au crible de ce contrôle de façon tout à fait favorable, mais ce n'est qu'à ce moment-là que, quand il y a des canards boiteux, on le sait. Et cela me paraît une situation extrêmement gênante, parce que je crois que les ONG elles-mêmes devraient se rendre compte qu'elles ont tout à gagner. Elles savent bien, on le sait, on sait lesquelles font du chiffre d'affaires, lesquelles font du business, lesquelles abritent des activités non recommandables. Il faudrait que les ONG s'emparent de cette question. Personnellement, moi, je suis en train, avec d'autres amis, d'essayer de créer un observatoire de l'action humanitaire pour essayer d'aller dans le sens d'une plus grande transparence, mais c'est très difficile parce que les ONG ont été habituées pendant très longtemps à fonctionner dans une espèce d'impunité et elles admettent très mal des contrôles extérieurs. Donc, on en est au début de cette question de l'évaluation et de la transparence. Et moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, parce que vous pensez bien que si on le confie à l'ONU, on ne va pas résoudre le problème. Donc, je ne sais pas.
Malgré tout, je me demande si ce que vous venez de nous dire, ce n'est pas peut-être déjà du passé. Et c'est vrai que le film The Warrior, ce film anglais qui décrivait donc la présence des casques bleus britanniques en Bosnie, est tout à fait révélateur de ce que vous venez de nous dire. Néanmoins, on a l'impression que depuis la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak, les ONG ont été mises de côté. C'est ma première question. Est-ce que c'est une impression ? On les voit moins sur le champ de bataille. La deuxième, c'est que vous nous parlez donc des fonds publics. Or, vous n'ignorez pas qu'en ce moment, nous sommes avec des déficits budgétaires de plus en plus importants. Pensez-vous que le gouvernement peut encore se permettre d'entretenir de tels budgets ?
Vous avez raison, monsieur, sur ce qui est très marquant sur les dernières guerres militaro-humanitaires qui ont été menées ces dernières années. On peut vraiment dire que les militaires disent aux ONG « poussez-vous de là qu'on s'y mette » et interdisent l'accès aux populations. On l'a vu au Kosovo, hein, où il y avait le camp des Italiens, le camp des Français. On l'a vu en Irak, où effectivement les ONG n'ont pu accéder en Irak, bien qu'elles aient collecté des fonds et aient fait appel à la générosité, pendant 2 mois sans être sur le terrain, qu'à partir du moment où la guerre a été terminée. Donc c'est cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure qui fait que, comme leur terrain d'action est de plus en plus difficile à mettre en œuvre, elles sont obligées aujourd'hui d'adopter des combats plus globaux parce qu'elles ont beaucoup de mal à accéder aux victimes. Alors, cette question de la baisse des financements, ça dépend des États. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, que les États-Unis financent des ONG extrêmement obéissantes, que beaucoup d'ONG arrivent dans les valises du gouvernement américain. On voit aussi, avec l'Union européenne, des ONG qui sont uniquement ou presque des émanations de financement de l'Union européenne. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Union européenne n'ayant pas de politique extérieure définie, cette action est une action qui est d'abord humanitaire. Certes, mais elle ne s'exerce quand même que dans des régions utiles. Donc, actuellement, les ONG sont inquiètes, effectivement, parce qu'elles se rendent compte que les donateurs sont de plus en plus exigeants et que les fonds publics ne leur sont pas alloués de manière aussi automatique que par le passé. On a vu par exemple Équilibre faire faillite il y a 2 ans par la baisse des subventions de l'Union européenne, enfin l'arrêt des subventions de l'Union européenne. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on est quand même encore et toujours. Vous me dites, est-ce que mon propos n'appartient pas au passé ? Je ne sais pas. C'est vrai que les ONG sont en une crise de leur existence, mais beaucoup d'entre elles sont encore des guichets, aujourd'hui encore, de la puissance publique.
Je souhaiterais savoir quelle alternative proposez-vous dans le cadre du programme d'aide alimentaire mondiale qui est principalement financé par les États-Unis, qui en profitent pour écouler leurs excédents d'aliments transgéniques et en font une véritable industrie en suscitant des besoins dans les pays du Sud.
Vous savez, le programme alimentaire mondial, c'est ce dont vous parlez, qui est le principal attributeur de l'aide alimentaire, est effectivement un vecteur de l'aide alimentaire américaine, puisque c'est le principal pays qui fournit l'aide alimentaire mondiale. Vous savez très bien, comme moi, que la meilleure alternative à l'aide alimentaire, c'est le soutien à la petite agriculture familiale paysanne, c'est-à-dire des prix rémunérateurs, une protection dans les pays du Sud contre les importations qui arrivent à des prix défiant toute concurrence dans ces pays, et le reconnaître le droit à ces agriculteurs du Sud de se protéger comme nous protégeons nos propres agriculteurs. Maintenant, ça ne fonctionne que dans les situations où il n'y a pas d'urgence, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas une dislocation complète des structures traditionnelles. Alors, le prix Nobel d'économie 1998 à Amartya Sen vous dirait s'il faut établir la démocratie, et sans, avec la démocratie, il n'y a plus de famine. Je pense que c'est une réponse, mais elle n'est pas suffisante. Le sacrifice des petites agricultures familiales paysannes dans le Sud est ce qui empêche le développement de grands nombres de pays du tiers-monde, parce que cela empêche la constitution d'un marché intérieur. Et quand il y a un marché intérieur, c'est-à-dire des paysans qui sont correctement rémunérés, eh bien les conditions de la prospérité, de l'échange et donc de la paix sont réunies. Et le Programme alimentaire mondial, c'est une institution qui est là, dans les situations notamment d'urgence, pour répondre à un besoin d'aide alimentaire qui, elle, est motivée là par des famines, par des ruptures absolues de nourriture dans certaines régions. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur votre analyse. Moi, quand j'étais Action contre la faim, on s'est heurté à ça en Éthiopie, notamment, où le maïs qu'on distribuait était un maïs farci d'OGM. Et malheureusement, quand vous êtes en urgence, vous savez, souvent, l'urgence excuse tout. Et c'est au nom de l'urgence qu'on commet souvent de très graves erreurs.
Mais à un moment, vous avez parlé des ONG, donc avec beaucoup de morgues, vous avez dénoncé leur slogan qui était par trop réducteur ou un peu simpliste, en fait. Et je ne sais pas s'il ne faut pas distinguer différentes ONG. Moi, par exemple, je suis à Attac, et vous parliez de choses simplistes, irréalisables. Pour ce qui est simpliste, je ne crois pas, d'après les documents émis, les choses lues comme ça. Donc ça me choque un peu que vous réduisiez ça à des gens qui essayent de prendre le pouvoir. Ensuite, à propos du pouvoir, justement, vous dites que les ONG décrédibilisent le pouvoir. Mais ce n'est pas de la faute des citoyens si la démocratie représentative ne représente plus le peuple et si la politique est devenue malheureusement un métier comme un autre ou un métier carriériste. Et ce qui pose un gros problème au niveau de ce que je pourrais appeler le courage politique, en fait. Donc, de dénoncer certaines pratiques, certaines choses. Et donc, les gens, beaucoup de citoyens s'élèvent contre ça. Et voilà, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, vous parliez des entreprises que les ONG attaquent les entreprises donc en les traitant de capitalistes, de libéraux, de ce que vous voulez, alors que d'après vous, ce sont elles qui créent la croissance et tout ça. Bon, déjà, on pourrait peut-être parler du lien pas évident entre croissance et indice de développement humain, par exemple, ou des choses comme ça. Et ensuite, est-ce que ce serait la raison pour en revenir un petit peu au discours capitaliste, disant donc le bon détenteur de capitaux moyens disant à l'ouvrier modeste, sois au moins content qu'il existe des patrons pour te donner un travail. Donc, c'est comme ça que j'ai compris votre intervention, donc je vous demanderai vraiment de préciser. Merci.
Merci. Apparemment, vous n'êtes pas le seul à l'avoir compris comme ça. Mais non, pas du tout. Je suis désolée si vous avez pu avoir... Non, ce qui me marque, c'est qu'est-ce qu'un processus de développement ? Pour que le développement se fasse dans un pays, l'expérience des 50 dernières années montre que les pays qui ont pu se développer pas au sens de la croissance de la richesse, mais au sens de l'indice de développement humain, c'est-à-dire diffusion de l'éducation, de la santé, etc., ce sont des États qui ont bénéficié d'un contexte institutionnel favorable, c'est-à-dire d'un État qui existait, qui pouvait remplir sa fonction bien sûr régalienne, mais aussi sa fonction en termes de services publics, et de populations qui, du coup, pouvaient, dans la paix et la sécurité, se livrer à leurs activités, activités d'échange, activités de production paysanne, on revient à ce que disait monsieur tout à l'heure, activités industrielles. Or, les ONG... dans leur entreprise de destruction de la norme, ne se rendent pas compte qu'elles sont pour la démocratie, les États. Qui incarne la démocratie ? Les ONG, elles sont pour la démocratie. Qui incarne la démocratie ? Ce sont des représentants élus par le peuple pour des durées limitées dans le but de remplir une mission de service public, sachant qu'ils peuvent être sanctionnés par les échéances électorales s'ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Et ce qui est gênant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les ONG se posent comme les seules garantes de la vertu. Et quand vous parlez du carriérisme des hommes politiques, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas autant de carriérisme dans les ONG. Et donc, je ne mets pas du tout en question... Si vous voulez, par exemple, vous êtes d'attaque, je comprends très bien l'utilité d'attaque. Attaque a rempli un rôle très important en dénonçant quelque chose qui est inadmissible, qui est la spéculation financière internationale avec les mouvements de capitaux qui ont provoqué les crises financières, les mouvements erratiques de capitaux qui ont provoqué les crises financières de toute la décennie 90-2003 au Brésil, en Corée du Sud, au Mexique, en Argentine, etc. Donc le combat d'attaque, c'est un combat qui est tout à fait... légitime et qui mérite d'être entendu. Et c'est d'ailleurs l'utilité d'attaque. En même temps, vous êtes bien conscient qu'entre le combat d'attaque et la mise en œuvre des recommandations d'attaque, eh bien, il y a un fossé. Et ce fossé, c'est celui qui sépare le slogan du programme politique concret. C'est tout ce que je dis. Je n'ai rien dit d'autre. Je dis qu'il est beaucoup plus facile d'être dans une culture d'opposition et de lancer des slogans que de les mettre en œuvre. Et que quand on discrédite systématiquement les hommes politiques en disant ils font du carriérisme, eh bien, on se rend absolument pas compte du temps qu'ils passent à essayer justement, à la fois au niveau local, auprès, dans leur circonscription pour les députés ou pour les maires, etc. Pourquoi il y a de moins en moins de maires dans les communes ? Pourquoi dans les 36 000 communes, il y a de moins en moins de gens qui disent on veut plus ? Parce qu'être homme politique, c'est aussi être au service de la collectivité. Et donc, et on ne peut pas opposer l'ONG et le politique. Je pense qu'ils doivent travailler ensemble pour justement pouvoir mettre en œuvre ces solutions que préconisent les ONG, mais qui sont dures à mettre en œuvre.
En fait, je voulais aller un petit peu plus loin sur ce même point qui est celui du fait que les ONG sont... bénéficiaires de la richesse de notre société, en fait qu'elles utilisent la richesse de notre société pour en apporter un peu au pays du Sud. Mais j'ai le sentiment que cette richesse de nos sociétés est, pour une certaine partie, due à l'écrémage des richesses de ces pays du Sud, puisque on leur achète des matières premières à bas prix sans leur assurer aux populations de ces pays les systèmes sociaux auxquels nous avons droit dans nos pays. Et donc, d'une certaine manière, Nous sommes bénéficiaires de l'appauvrissement des pays du Sud, puisque nous leur prenons ce à partir de quoi ils pourraient bâtir leur richesse, sans leur garantir en retour les systèmes sociaux dont nous avons hérité. Et j'ai le sentiment aussi que dans toute cette période, disons de la dernière moitié de siècle, du XXe siècle, les ONG ont été, pour le développement du système capitaliste, un moyen de masquer cette réalité aux populations de nos sociétés, en leur donnant bonne conscience, en leur disant « nous faisons de l'aide aux pays du Sud », nous faisons des ONG, vous en êtes partie prenante, et ça vous donne bonne conscience, mais vous ne voyez pas comment votre richesse est basée sur celle de ces pays. Et alors, là, je voudrais que vous alliez un petit peu plus loin sur cette contradiction, en essayant de nous montrer comment les ONG pourraient faire la part de cette contradiction, c'est-à-dire être effectivement un vecteur de l'aide aux pays du tiers-monde sans masquer la réalité, et cette réalité qui est masquée également par la parole politique, puisque la parole politique ne dit pas cette réalité de ce que notre richesse est basée sur l'appauvrissement des pays du Sud.
Oui, je crois qu'effectivement vous soulevez une question éthique qui est essentielle, qui est la relation entre la justice sociale et la charité, c'est-à-dire est-ce que la charité peut permettre de faire l'économie de la justice sociale? On sait tous que non, et en même temps, on sait qu'on a aussi besoin de charité, c'est-à-dire que finalement, on ne peut pas discréditer la charité quand vous voyez les donateurs des ONG, quand vous voyez les volontaires des ONG, ce sont des gens qui souvent sont animés d'intentions vraiment généreuses. Et moi, je crois beaucoup à l'action que mène ce qu'on appelait avant, parce que maintenant la scission est beaucoup moins forte, les ONG de développement. C'est-à-dire ces ONG qui étaient nées dans les années 60 et qui, depuis 40 ans, travaillent sur la question de l'organisation des paysannes, de l'action des organisations des femmes, de la question des quartiers, et qui sont sur un travail de fourmi, un travail qui n'est pas du tout médiatique, mais qui s'interroge. Alors, elles ont beaucoup de mal à obtenir des financements, parce que justement, ce n'est pas très spectaculaire, mais ce sont des ONG qui sont immergées dans les réalités du Sud et qui ont une véritable connaissance des ressorts de fonctionnement du Sud. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles agissent dans les creux du développement, là où les ONG issues du sans-frontierisme agissent souvent dans les creux de la géopolitique. Alors, ce qui est dangereux, c'est de voir l'autre du Sud uniquement comme une victime, comme un bénéficiaire. Il ne faut jamais oublier que nous avons en face de nous, à côté de nous, des citoyens. C'est-à-dire des gens qui sont exactement identiques à nous, mais dans un contexte politique, culturel, historique, différent. Et cette question de ne jamais oublier, vous savez, vous connaissez le slogan « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Il faut vraiment se départir complètement de cette vision très supérieure que beaucoup d'ONG portent quand même avec cette vision très technicienne. Nous allons mettre en place des kits d'assistance finalement universels. On sait très bien que le développement, ce n'est pas les ONG. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur. C'est un contexte institutionnel favorable, un État inspiré qui met la croissance au service de la justice sociale et qui sait répartir pour éviter ces inégalités croissantes qui sont porteuses de tensions politiques telles que certains pays se cassent la figure dessus. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle l'éducation au développement. Et il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre l'humanitaire et l'éducation au développement. Je crois qu'on a tous un devoir là-dedans, c'est-à-dire écouter ce qu'ont à nous dire ces citoyens du Sud, de l'Est, des autres sociétés, qui ont un savoir au moins aussi important que le nôtre, mais qui, à un moment donné de leur histoire, ont manqué des moyens matériels ou ont subi une oppression, une violence, une domination, qui leur ont permis de se réaliser comme, finalement, nous avons imparfaitement réalisé notre développement.
Ça me fait plaisir parce qu'en fait, je suis originaire du Sud. Et la première des questions que j'ai envie de vous poser, vous qui vous intéressez à nous autres, c'est que, est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous savez au moins ce que nous voulons, vers où nous voulons aller? Est-ce que vous pensez qu'on a réellement besoin de l'appui que vous nous apportez? C'est très important. Je crois que ça remettrait peut-être... faudrait peut-être se demander sur l'utilité des ONG, en fait. Parce que nous,
hommes du Sud, nous voulons nous développer, nous voulons autour de nos propres valeurs. On n'a pas forcément besoin d'une aide comme vous la concevez. On n'a pas besoin d'assistance. Ce qu'il nous faut, hommes du Sud, c'est un cadre serein. Donc on parlait du rôle des politiques qui est très important. Donc on parlait de démocratie, pas vu de l'Occident. Une démocratie qui serait l'émergence de nos propres valeurs, autour de nos propres valeurs. Ce qui est frappant, c'est qu'on n'est jamais représenté là où la parole est donnée. Et c'est dommage, parce que finalement, les ONG ne font que perpétuer en fait, un système qui à la longue, devient... Les ONG, pour moi, la vision que j'ai de l'ONG, j'ai travaillé dans une ONG, j'en suis parti, parce que je trouvais que je ne servais à rien. L'action que je menais ne servait à rien. À partir du moment où j'avais pas l'écoute, je n'écoutais pas assez l'autre. Je n'avais pas compris ce dont il avait besoin pour se développer. Je pense, je venais avec des idées préconçues, avec une idée, peut-être avec un sentiment de culpabilité, mais je me trompais énormément, en fait. Et c'est pas ça. Aider ou accompagner l'autre, partager la vie de l'autre, c'est pas ça. C'est pas venir avec un air supérieur. Donc il faudrait peut-être écouter, donner la parole, et on se rendrait compte que peut-être que la plupart des chemins qu'on met en place, nos attitudes sont totalement à côté de ce qu'il faudrait faire. C'est très très important. Merci.
Sylvie Brunel, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.